Au bout de l'actu. Avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Au bout de l'actu ce soir avec le procureur du parquet de Gap, Raphaël Ballan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors aujourd'hui vous avez présenté avec la préfète des Hautes-Alpes, Cécile Bigot de Kaiser, le bilan de la délinquance dans les Hautes-Alpes pour l'année 2017. Concrètement, si on devait donner quelques adjectifs, on dirait quoi ?
On dirait globalement positif pour les infractions qu'on appelle les atteintes aux biens, donc essentiellement les vols, les dégradations, où il y a une baisse qui est constatée. À une petite exception près pour les cambriolages en zone police, notamment dû à une vague de cambriolages de cet été à Gap, et globalement également une baisse des atteintes aux personnes, donc essentiellement les violences, y compris les violences intrafamiliales. Donc ce sont deux agrégats, entre guillemets, donc de délinquance qui baissent et qui sont les agrégats classiques. Donc c'est plutôt satisfaisant. Après, deux bémols. Le premier bémol, c'est celui de la circulation routière, puisque on a eu un mort de plus que l'année dernière. C'est un mort de trop, évidemment. 12 morts en 2017. Vous savez que l'année commence très très mal. On en est au quatrième mort ce week-end depuis le début de l'année. À ce rythme-là, on aura une délinquance routière qui sera beaucoup plus importante que 2017. Donc il faut vraiment impérativement que chacun prenne conscience que la vigilance est de mise sur les routes.
Vous parlez de délinquance routière parce que justement, dans ces accidents corporels, dans ces accidents mortels, il y a l'alcool et les drogues qui sont aussi liés.
Alors c'est l'autre bémol d'ailleurs, à savoir les chiffres sont à la hausse aussi pour les stupéfiants. Mais en matière de stupéfiants, plus on cherche, plus on trouve. Donc ça correspond aussi à une activité plus importante de la part de la police et de la gendarmerie et des douanes, que je remercie les uns et les autres pour leur action déterminante, et qui sont conformes à mes instructions de prioriser ce type d'infraction, parce que justement, lutter contre les stupéfiants et lutter contre l'alcool au volant, c'est lutter contre les accidents routier. C'est aussi lutter contre l'alcool et contre les stupéfiants, c'est aussi lutter contre les violences. Bon nombre de violences sont commises par des personnes qui étaient sous l'emprise de l'alcool ou des stupéfiants, voire des deux. Donc c'est pour cela que j'en fais une priorité, parce que ça permet de diminuer ce type de délinquance qui fait des dégâts considérables.
Quand vous dites qu'il y a une augmentation des stupéfiants, c'est plus 33% à peu près.
33% de procédures en plus. Alors, ça représente un peu plus de 200 affaires en plus que l'année précédente. Mais là aussi, il faut toujours décrypter les chiffres qui, bruts, ne veulent pas dire grand-chose. Dans ces 33% d'augmentation, ce qui me paraît important, c'est qu'il y a beaucoup plus d'affaires qui ont été des enquêtes de fond, qui ont été effectuées tant par la police que par la gendarmerie, qui ont permis de démanteler un certain nombre de réseaux locaux avec des vendeurs, des revendeurs, des personnes encore au-dessus, de faire des saisies importantes de matières de stupéfiants. Et ça demande beaucoup de travail, c'est compliqué, c'est lourd, mais il faut le faire.
Mais là, on atteint, en 2017 et 2018, la ligne rouge. Ça, vous l'avez souligné aussi, parce que jusque-là, on consommait, on va dire, du cannabis. Aujourd'hui, on va se déverser plutôt sur la cocaïne, voire même le crack.
Alors, déjà, consommer des stupéfiants, c'est franchir la ligne rouge, puisqu'on est, sur des comportements qui sont illicites. Je fais quand même une petite parenthèse avant de parler de la cocaïne et du crack sur le cannabis. J'ai eu l'occasion de dire et de répéter que pour moi, le cannabis n'est plus une drogue douce comme certains l'ont appelé à une époque. On est loin de l'image d'Épinal du fumeur des joints des années 70. Pourquoi je dis ça ? Parce que les taux de THT, c'est-à-dire la matière qui fait de l'effet dans le cannabis, dans la résine en particulier, sont en très forte augmentation ces dernières années. Et donc, en quelques années, le taux est devenu tel que ça fait des effets qui sont tout à fait proches d'autres drogues dites beaucoup plus dures. Et je le vois moi au quotidien dans mon activité, notamment à l'égard de la jeunesse, que ce soit les adolescents ou les jeunes gens, les jeunes majeurs qui, à un moment donné, pour des raisons diverses et variées, prennent ces stupéfiants et les prennent en grande quantité. Ils sont désocialisés, aucune volonté réelle de se réinsérer, donc ça fait des dégâts sociaux colossaux, sans parler des aspects parfois de santé. Bon, on oppose souvent l'alcool qui fait des ravages au niveau de la santé, que finalement le cannabis, c'est pas bien grave, on meurt pas de prise de cannabis. Le problème, c'est plutôt la mort sociale que la mort physique. Voilà. Donc ça, je referme la parenthèse, mais c'est important, parce que la ligne rouge, elle n'est pas que sur la cocaïne et le crack, c'est effectivement ce dont vous vouliez parler, et c'est important. Il y a beaucoup plus de cocaïne qui ont été identifiés comme sur le département, beaucoup plus de saisies de cette matière, beaucoup plus de procédures où on voit des gens qui consomment de la cocaïne ou qui en revendent. Et depuis quelques mois, alors que ça fait 4 ans et demi que je suis dans le département, j'en avais jamais vu, le crack est apparu. Et le crack, c'est vraiment un produit extrêmement nocif qui fait des dégâts considérables pour la santé et quasiment immédiatement, qui rend les gens totalement fous. Et ça fait des dégâts non seulement pour leur propre santé, mais aussi pour leur entourage. Et quand les gendarmes ou les policiers veulent les interpeller, ils sont quasiment insaisissables parce qu'ils ne ressentent aucune douleur.
On arrive à l'expliquer justement cette apparition aujourd'hui, ce développement. Ce sont des filières qui viennent de Marseille, de Grenoble ou qui sont déjà implantées dans les Hautes-Alpes?
Pour la cocaïne, oui, il y a un développement de la vente de cocaïne, il y a un développement du trafic au niveau national. Donc Gap n'est pas épargné par cette évolution au niveau national. Après, le crack, c'est un phénomène, c'est une drogue qu'on voyait surtout, par exemple, dans les Antilles, qui petit à petit est venue en métropole et notamment en région parisienne. Actuellement, il y a une grosse problématique du crack en région parisienne. Et donc, nous, on a quelques cas de crack, pas de gens qui arrivent de l'extérieur, hein, ce sont des hauts-alpins qui s'essayent à cette pratique-là parce que ils sont dans une recherche d'expériences nouvelles. Sauf que je dis à tout le monde, ceux qui voudraient tenter cette expérience, elle risque d'être bien souvent fatale.
Vous le dites, mais vous êtes un petit peu seul à le dire. C'est ce que vous disiez à la rentrée solennelle pour 2018. Il n'y a pas de campagne, de véritable campagne nationale contre la toxicomanie.
C'est vrai. Je ne dis pas que je suis le seul à le dire. Je dis que je pose la question suivante et je la pose à vos auditeurs. Lequel d'entre nous se rappelle de la dernière grande campagne nationale de prévention des stupéfiants? À part la prévention routière qui dit qu'il ne faut pas prendre des stupéfiants et qui fait une campagne spécifique prévention routière. Mais au-delà des débats sur la dépénalisation, sur la recherche de procédures simplifiées, etc. Où est la campagne de fond de santé publique sur la prévention pour les stupéfiants, de fond en termes d'ordre public, en termes de, comme je le disais tout à l'heure, de socialisation, d'emploi, etc. Où sont les vrais débats pour apporter quand même un certain nombre d'éclairages à nos concitoyens et en particulier une fois de plus à la jeunesse en disant attention, ce que vous prenez, passez-moi l'expression, c'est de la merde et vous allez le payer.
Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en tout cas au niveau du parquet? Quelles actions pourront être menées demain?
Moi, je n'ai pas de légitimité à faire payer, comme je le pour reprendre mon expression, au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, ce n'est pas mes attributions. Par contre, ma mission, la loi dit c'est interdit, donc je le fais payer au niveau pénal. Donc non seulement il y a des risques sociaux, des risques de santé, des risques de scolarisation, etc., etc. Mais en plus, si vous consommez des stupéfiants, vous aurez à en répondre devant les juridictions.
Raphaël Ballan, le procureur des Hautes-Alpes, notre invité ce soir. On se retrouve d'ici quelques instants dans la deuxième partie d'Au bout de l'actu. À tout de suite.
Au bout de l'actu, avec Alex Cam et Cyrielle Michard.
Et on poursuit notre entretien ce soir dans Au bout de l'actu avec le procureur des Hautes-Alpes, Raphaël Ballan, qui faisait aujourd'hui aux côtés de la préfète du département, Cécile Bigot de Kayser, le bilan de la délinquance dans le département pour l'année 2017. Autre chiffre que vous avez justement avancé pendant cette présentation du bilan de la délinquance pour 2017, c'est le nombre de gardes à vue qui a augmenté de 22%. Une augmentation de 22% du nombre de gardes à vue, est-ce que ça veut dire une augmentation de la gravité des faits?
Là aussi, je reste prudent sur l'examen des chiffres. Oui, il y a une augmentation des gardes à vue par rapport à l'année dernière, qui avait baissé par rapport à l'année d'avant, mais enfin, sensiblement depuis mon arrivée dans les Hautes-Alpes, donc il y a plus de 4 ans, il y a une augmentation importante des gardes à vue chaque année. Parce que déjà, il y en avait très peu jusqu'à présent, même si, et on reste quand même sur un niveau de garde à vue assez faible, 396 sur toute l'année 2017, comparé à d'autres juridictions de même taille, ça reste très faible. Mais parce qu'une fois de plus, la politique est de dire, on ne place en garde à vue que si vraiment on n'a pas le choix et que c'est absolument nécessaire. Donc ça peut vouloir dire quand même que si on n'a pas le choix et que c'est nécessaire, c'est qu'il y a des faits qui sont plus graves que les années précédentes. C'est un des éléments qu'on peut envisager. L'autre élément, j'en ai parlé, trafic de stupéfiants, ça entraîne des gardes à vue bien souvent, donc c'est plus de gardes à vue. Et puis également, la lutte contre les cambriolages, et notamment contre les équipes de délinquants itinérants, qui nous arrivent d'autres départements et qui vont faire des espèces de razzias pendant les nuits dans telle ou telle région du département. Quand ces personnes-là sont interpellées, évidemment, elles sont placées en garde à vue et le plus souvent, elles sont déférées devant le tribunal correctionnel en comparution immédiate.
Il y a un autre phénomène qui est inquiétant, ce sont les violences faites aux femmes qui augmentent. Est-ce que c'est quoi? C'est la parole qui se libère aujourd'hui? Il y a plus de dépôts de plaintes ou c'est un phénomène qu'il faut prendre au sérieux?
Faut le prendre au sérieux, bien entendu. Et puis, comme vous le savez, je le prends au sérieux depuis que je suis arrivé. C'était la priorité des priorités que j'avais fixées. C'était la lutte contre les violences et en particulier les violences faites aux femmes. Là aussi, je me méfie des chiffres. Ce que je sais, de par ma pratique professionnelle, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un chiffre noir. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes parfois, qui n'ont pas l'envie, mais n'ont pas le courage parfois, ou ne se disent que ça va être pire d'aller déposer plainte. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est qu'on essaye de mettre en place des outils à la fois pour mieux accueillir dans les commissariats et les gendarmeries, même s'il y a encore des efforts à faire de formation, d'accueil dans les locaux, etc. Il faut que chacun puisse avoir, chaque victime de violence conjugale puisse avoir confiance dans les institutions par rapport à cette problématique-là. Une femme qui est battue au sein de son couple, c'est aussi un enfermement. Et donc, quand elle franchit la porte du commissariat de la gendarmerie, il y aura systématiquement une enquête. Parfois, les femmes ne souhaitent pas le faire parce que, par exemple, elles craignent que leur mari aille en prison. C'est pas ce qu'elles souhaitent. Bien souvent, par exemple, et on revient à cette problématique de l'alcool et des stupéfiants, elles disent « Je veux que mon mari se soigne parce qu'il a un problème avec ça. » Et quand il a bu ou quand il a pris des stupéfiants, il devient violent. Et donc, je leur dis, dans ces cas-là, si les faits sont d'une gravité relative, même si en soi c'est évidemment grave, on a des outils juridiques de forcer l'intéressé à se soigner. On peut le forcer aussi à s'éloigner quelque temps du domicile conjugal. On peut aussi accueillir cette femme, grâce à des dispositifs qui ont été mis en place par la préfecture en lien avec le parquet. On peut, les mettre à ces femmes à l'abri. Donc il y a tout un panel de possibilités. Il n'y a pas une réponse unique. Chaque cas sera étudié et le procureur ou ses substituts prendront une décision adaptée à chaque situation. En tout cas, ils essaieront de le faire, y compris une fois de plus les soins. Donc ce que je dis, au-delà des statistiques, est-ce que ça baisse, est-ce que ça monte, j'en sais rien. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience encore plus importante de la lutte contre ce type de phénomène, y compris les violences sexuelles, hein, je parle bien aussi de celles-ci. Il faut déposer plainte, il faut aller voir les commissariats et les gendarmeries, je m'en fiche si ça monte, c'est pas le problème des statistiques, ça m'est égal, ce qui compte, c'est de protéger les femmes.
Dernière question, une question un peu plus nationale. Le consentement sexuel qui pose aujourd'hui question et surtout débat. Un homme de 28 ans est jugé depuis ce mardi pour une relation sexuelle avec une fille de 11 ans. Il est jugé pour atteinte sexuelle sur mineur, mais la famille de la victime souhaite qu'il soit jugé, en tout cas que les faits soient requalifiés en viol. Est-ce qu'on peut redéfinir la notion de viol et la notion d'atteinte sexuelle selon le droit? Quelle est la différence?
Oui, alors ça peut paraître compliqué, souvent il y a une confusion qui règne dans tous les débats sur ces sujets-là. C'est pas si compliqué que ça. Pour le moment, la loi, et vous savez qu'il y a des discussions en cours au niveau gouvernemental pour savoir s'il faut la faire évoluer, la loi dit la chose suivante. Tout majeur ne peut pas avoir des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans. C'est interdit. Si il a des relations sexuelles, ce majeur, avec un mineur ou une mineure de moins de 15 ans, à ce moment-là, c'est a minima ce qu'on appelle les atteintes sexuelles. Même si la jeune fille, par exemple, de 14 ans et demi, ou le jeune homme de 14 ans et demi était d'accord, voire même qu'il était demandeur, et qu'il y a eu ces relations sexuelles, avec un majeur, le délit est commis. Et c'est ce qu'on appelle l'atteinte sexuelle. L'agression sexuelle ou le viol, c'est quand l'enquête démontre que non seulement il y a eu cette relation sexuelle, mais en plus elle a été forcée, soit par la contrainte, soit par la menace, soit par la violence, et le texte dit aussi soit par la surprise. Ça veut dire quoi la surprise? Ça rejoint un peu votre sujet de l'enfant de 11 ans. C'est est-ce que l'enfant de 11 ans, je ne connais pas du tout ce dossier et je me garderais bien d'avoir un avis, mais c'est pour illustrer, est-ce que cet enfant de 11 ans, lorsqu'elle a accepté, semble-t-il, d'après le parquet, ses relations sexuelles qui étaient avec ce majeur, est-ce qu'elle avait conscience de ce qu'elle acceptait? Est-ce qu'on a forcé son consentement d'une manière ou d'une autre? C'est du cas par cas aussi. Ça, c'est la loi pour le moment. C'est du cas par cas aussi. C'est-à-dire que le procureur de la République et ensuite les juges, et avant les enquêteurs, vont devoir se poser la question, est-ce que cette jeune fille de 11 ans, ou de 12 ans, ou de 13 ans, voire de 9 ans, savait ce que c'était une relation sexuelle? Est-ce qu'elle savait ce qu'il était en train de se passer? Est-ce que son oui était un vrai oui? Est-ce qu'elle a eu un vrai consentement? Aujourd'hui, vous le savez bien, dans notre société, les enfants de 11 ans, bien souvent, savent déjà en grande partie ce qu'est la sexualité, avec la pornographie régnante, etc., les discussions et les films qui sont diffusés, que ce soit en cours de récréation ou ailleurs. Bon. La sexualité, c'est quelque chose qui est quand même connu, même des jeunes enfants. Donc on peut théoriquement se dire que même qu'une enfant de 11 ans sait ce qui va se passer et qu'elle est d'accord pour le faire. Ou alors, et c'est les débats actuels, la loi pourrait dire, mais non, pas du tout, si on a moins de 10 ans, moins de 13 ans, moins de 15 ans, que sais-je, chassé au législateur de le trancher, par nature, par définition, vous ne pouvez pas consentir à une relation sexuelle. Et à ce moment-là, nécessairement, ce sera un viol. Voilà. Et donc, tout le débat, il est là. Il est de dire, est-ce que, et c'est aussi un débat social, mais aussi moral, sur lequel je n'ai pas à trancher, moi je suis là pour appliquer la loi telle qu'elle est, mais c'est de dire, est-ce que si on adopte cette loi en disant tous les mineurs de moins de 15 ans qui ont une relation sexuelle avec un majeur, c'est nécessairement un viol. Bon, bah, ça veut dire que la société refuse de dire à une jeune fille de 14 ans et demi, tu ne pourras jamais avoir, même si tu es très amoureuse de ce garçon de 18 ans et un jour, et pourquoi pas non plus n'importe qui. C'est-à-dire, moi, le plus simple, c'est de dire, bah, à ce moment-là, moins de 15 ans, interdiction absolue. Au moins, c'est clair. Mais est-ce que c'est vraiment ce que veut la société à travers le législateur? Ça, c'est à eux de trancher. Une fois de plus. Après, est-ce qu'il faut faire la différence entre l'auteur est majeur, l'auteur est mineur? J'ai 18 ans moins un jour, je peux avoir une relation sexuelle avec une fille de 12 ans qui est d'accord. J'ai 18 ans et un jour, j'ai plus le droit de... Bon, la loi met des limites. C'est pas simple, mais c'est le rôle du législateur.
Merci Raphaël Ballan, procureur des Hautes-Alpes, d'avoir été à nos côtés ce soir pour revenir sur les chiffres de la délinquance en 2017. On poursuit avec, dans quelques instants, la première édition du Récap de l'Info. A tout de suite sur Alpe 1.